grand historien des épidémies est notre invité.
Ici Paris, Radiodiffusion française présente...
En 1832, le choléra. La peste ou le choléra. La première n'était pas oubliée, mais les autorités tant médicales qu'administratives savaient depuis la fin des années 1810 qu'un nouveau danger de pandémie couvait en Asie et pouvait survenir en Europe, le choléra. Brousset, le maître à l'époque du Val-de-Grâce, voyait partout des gastro-entérites. Là, c'en était une sérieuse. Déjection par le haut et par le bas, crampes nerveuses, grand abattement et le visage qui changeait de couleur. En 1831, le président du Conseil, Casimir Perier, précautionneux, prend des dispositions qui semblent tout prévoir comme sur du papier à musique. En mars 1832, les Parisiens s'en moquent encore. Dans les rues, les enfants jouent au choléra morbus. Michelet écrit sans désemparer, il est pris d'une légère fièvre, mais c'est celle qui accompagne les débuts de la rédaction de son Histoire de France. À la mi-carême, beaucoup de masques figurent des mines défaites ou bleues pour railler la maladie. Et soudain, dit le récit commun qui ressemble à s'y méprendre à celui du Moyen-Âge, le plus sémillant des danseurs de la mi-carême ressent un grand froid dans les jambes. Il défaille, il enlève son masque et révèle un visage qui est devenu bleu-violet. Vient le temps de la peur bleue et des morts, au premier rang desquels il y aura le vigilant Casimir Perier.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Patrick Zilberman, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes d'une espèce rare, vous avez la chaire d'histoire de la santé à votre disposition à l'école des hautes études en santé publique à Rennes.
Absolument.
Et vous avez publié beaucoup de livres sur les épidémies meurtrières, aussi sur les politiques de santé et d'hygiène en France. Alors rassurons tout de suite les populations, le choléra se guérit dans 99% des cas, il est largement éradiqué et une soixantaine d'années après son apparition en France, 1884, on a compris enfin à peu près d'où il venait. Comment il fonctionnait ?
Oui, pour reprendre l'histoire du choléra très rapidement, il est en fait endémique depuis des siècles et des siècles dans le delta du Gange en Inde. Et puis, on ne sait pas très bien pourquoi, mais on devine que c'est encore là, si vous voulez, l'homme qui transporte avec lui le bacille. Tout d'un coup, il sort de son nid, si j'ose dire, et on le trouve sur la route de la Russie, où il s'éteint rapidement en 1823 dans le Caucase et dans l'Anatolie. Et c'est un deuxième essai, une dizaine d'années plus tard à peine, où cette fois-ci, il va arriver jusqu'en Europe occidentale et faire pas mal de dégâts.
Mais expliquez-nous, d'un point de vue rétrospectif, ce qu'on sait maintenant du fonctionnement du choléra. C'est un vibrion.
Alors, le bacille donc est découvert par Koch depuis en 1884.
Il n'a pas découvert que le bacille de la tuberculose.
Il n'a pas découvert que le bacille de la tuberculose, en effet. De toute façon, la décennie des années 1880-90 était extrêmement fructueuse sur le plan des découvertes scientifiques en matière de maladies infectieuses. Donc, c'est un bacille qu'on appelle le bacille virgule, parce que sous le microscope, il a la forme d'une virgule. C'est un vibrion qui aime les eaux chaudes. Et comment est-ce qu'on se contamine ? On est contaminé en ingérant de l'eau de boisson contaminée par des déjections de personnes infectées. Donc on voit tout de suite, si vous voulez, que l'épidémie ou la pandémie repose sur l'absence ou la défectuosité des systèmes d'amener et d'évacuation des eaux. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le choléra est éradiqué aujourd'hui. Vous avez raison, 99% des personnes atteintes sont sauvées grâce à des solutions très simples. Il faut les réhydrater avec des solutions chargées de glucose et de sel.
Il n'est pas éradiqué.
Il n'est pas éradiqué parce que, justement, il dépend très étroitement de l'état des systèmes d'eau et d'égout qui ne sont pas partout dans le monde aujourd'hui très performants.
Alors ça, c'est l'état des connaissances aujourd'hui. Revenons à la situation telle qu'elle était perçue par les contemporains du début du 19e siècle. Il y a un grand goût, pendant la monarchie constitutionnelle en France, de l'étude statistique. Et on guette quand même l'arrivée du choléra. On sait qu'il va venir. On se préoccupe de la mesure de ce qui se passe sur la route du choléra que vous citiez, qui est à peu près la même que celle qu'emprunte Chopin quand
oui,
il
absolument.
Vient de Pologne à Paris dans ces années-là. Alors, on lit dans un certain nombre d'études, l'Académie de médecine, la Gazette médicale, les autorités administratives aussi mesurent le danger. Vous êtes d'accord ?
Non. Non, je crois qu'il y a des publications, incontestablement, mais ça reste du papier, si vous voulez. Du papier imprimé, d'accord, mais du papier quand même. Qu'est-ce qu'on oppose au choléra ? Qu'est-ce qu'oppose, par exemple, le gouvernement français au choléra ? Il oppose des dispositions ayant trait
aux funérailles.
Au ramassage des morts, si j'ose dire. Et puis, il oppose des mesures ayant trait à l'ordre public.
C'est prévu avant l'arrivée.
Alors, c'est prévu avant l'arrivée. C'est prévu depuis notamment l'ordonnance royale du 3 mars 1822, mais qui n'était pas motivée par le choléra, mais par la fièvre jaune qui sévissait à Barcelone et qui a beaucoup effrayé les parlementaires français qui ont donc voté une loi qui faisait du chef de l'État l'organisateur en chef, le chef d'orchestre de la défense sanitaire et qui surtout prévoyait des peines tellement disproportionnées,
dont la
peine capitale, les travaux forcés, que cette loi n'a jamais été appliquée.
Ça, c'est sous la Restauration. Moi, je citais le nom du président du Conseil ministre de l'Intérieur de Louis-Philippe en 1831. Il prend quand même, avant l'arrivée du choléra, des dispositions.
Mais des dispositions ayant trait à l'ordre public. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, le choléra, à mesure qu'il arrive vers l'Europe occidentale, laisse derrière lui, comme une traînée de poudre, une série d'émeutes et de soulèvements populaires très violents, parfois. Et donc, les préoccupations des dirigeants vont d'abord à la protection de l'ordre public.
Et Casimir Perrier, c'est un homme d'ordre,
oui,
le parti de la résistance, comme on dit à l'époque, banquier. Alors, on va parler différenciation sociale que provoquerait peut-être ou que marquerait le choléra. Il arrive, c'est tout de même la stupéfaction dans l'opinion. Avril 1832, plus tard, Alexandre Dumas, dans un feuilleton qui s'appelle « Les Mohicans » et qui met en scène un héros nommé Salvatore, raconte comment le choléra a pénétré dans les maisons, d'abord à Paris, parce qu'il est apparu, vous nous avez raconté quelles étaient les routes, dans les ports de la mer du Nord et dans les capitales, tout de suite. Ici, nous sommes dans la maison riche d'un vieillard abandonné où un cambrioleur va s'introduire.
À moi ! Au secours ! Sauvez-moi !
Qu'est-ce que vous faites là, noble vieillard ?
À moi ! À moi ! Aidez-moi, je vous en prie ! Enfin quelqu'un pour me secourir. Ami, donnez-moi votre main.
Je vous demande pardon. Je ne serre jamais une main avant de savoir si c'est celle d'un honnête homme. Cette maison a été cambriolée.
Oui, ce sont mes domestiques. Je leur ai fait peur.
Ils ont tout emporté ?
Non, pas tout.
Bravo, où est l'or ?
Mais non, vous aurez mieux que de l'or. Allez chercher un médecin.
Un médecin? Mais regardez-nous, mon pauvre monsieur. On lui ferait peur.
Où est l'or?
Pitié! Je vais mourir!
Oh, mourir du choléra à 75 ans, se mourir de vieillesse.
Où est l'or?
Mais les domestiques l'ont pris et ils se sont enfuis.
Tonton sale, Mayoche. Mais il n'y a plus de morale. Hein?
Alors à quoi bon un médecin puisque vous ne pouvez pas le payer?
À vue de nez, je sais que vous aimez les enquêtes statistiques telles qu'on les pratiquait sous la monarchie de Juillet, extrêmement sérieuses, mais là, on comprend qu'être un vieillard, c'est André Valmy qui interprète le monsieur qui va mourir, c'est pas un avantage, et c'est pas toujours un avantage d'avoir des domestiques ?
Alors, si, c'est un avantage d'avoir des domestiques, sauf s'il fuit, évidemment. Pourquoi est-ce un avantage d'avoir des domestiques ? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, au fond, ce qui est dangereux, c'est l'eau contaminée. Donc, si vous pouvez vous abstenir d'avoir des contacts avec l'eau contaminée, vous êtes quand même mieux protégé que si vous êtes domestique, marin, si vous vendez des fruits et légumes, etc., etc. Toutes choses qui vous mettent en contact avec ou le travailleur des quais, par exemple, docker, par exemple, qui vous mettent en contact avec l'eau. Donc, ce pauvre vieillard qui est riche, selon Alexandre Dumas, et qui avait des domestiques, aurait été bien protégé si les domestiques étaient restés fidèles.
Alors un contemporain, Villermet, a fait une enquête très précise après le choléra. Un de nos contemporains, grand historien de Paris, Louis Chevalier, a publié en complément à Classe laborieuse et Classe dangereuse une thèse sur le choléra. Il apparaît évidemment que si on est rue de Chaillot à côté d'ici, il vaut mieux être du bon côté de la rue que du mauvais qui est dans l'ombre, et qu'il vaut mieux ne pas être dans une rue des mystères de Paris de Gensu.
Bien sûr,
ça
si
va
vous,
de soi.
Bien sûr, si vous voulez. Là, le choléra devient une maladie de pauvres assez rapidement, et singulièrement en 1831-32. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans un immeuble surpeuplé, quand vous êtes dans un endroit de Paris où la densité de population est très élevée, quand vous vivez dans un milieu totalement démuni de toute espèce d'installation d'hygiène, vous êtes une victime toute désignée du choléra.
Cependant, le grand physicien Sadi Carnot, des parlementaires et Casimir Perrier, le président du conseil précautionneux que nous avons cité souvent, lui-même, vont mourir. Vous êtes basé, quand vous travaillez à Paris, à l'Hôtel Dieu. On se souvient encore d'une scène, est-elle apocryphe, est-elle réelle, où le duc d'Orléans, le fils du roi, accompagne
Casimir Perrier à l'Hôtel visitant Dieu. Des malades contaminés par le choléra. Alors Casimir Perrier hésite beaucoup à pénétrer dans l'hôpital, et c'est là où le duc d'Orléans rétorque « le vin est tiré, il faut le boire ».
À son tour, le 1er juin 1832, le général Lamarque, qui est député libéral de Mont-de-Marsan et qui est une haute figure de l'opposition au gouvernement, le parti du mouvement, est touché.
Vous savez que le général Lamarque est au plus mal. S'il meurt, les républicains vont bouger, les bonapartistes aussi. Toute la racaille va en profiter pour essayer de piller et d'assassiner.
Eh oui, monsieur le préfet, partout où il y a du plomb dans Paris, sur les toitures, les monuments, les gouttières, partout on l'arrache. Et pourquoi ? Pour en faire des balles.
La mort du général Lamarque, tous les détails. La mort du général Lamarque, tous les détails.
Demandez le constitutionnel, la mort du général Lamarque. Le
Et les barricades, et les misérables, nous sommes dans une adaptation du livre de Victor Hugo par Jean-Paul Le Chanois. Vous allez me dire qu'il ne faut pas faire de rapprochement trop simpliste entre les émeutes qui se multiplient, les manifestations politiques surtout, et les réactions populaires au choléra.
Alors, ça a été une tentation chez les historiens de faire ce rapprochement. Il ne faut pas oublier que lorsque Louis Chevalier publie son bouquin sur le choléra, c'est dans une collection d'histoire de la Révolution de 1848. C'est un débat qui dure encore aujourd'hui, qui a été très nourri. Est-ce que l'épidémie favorise les révolutions, ou est-ce que les révolutions, au contraire, favorisent les désordres qui accompagnent l'épidémie ? Richard Evans, qui a écrit un ouvrage extrêmement circonstancié sur le choléra de Hambourg de 1892, nous conseille la prudence sur ces rapprochements.
Bien, Patrick Zilberman. Il L'incident sur la fréquentation des théâtres, elle, est réelle. Mi-mars 32, avant le choléra, la création de la Sylphide avait pourtant été un triomphe, chorégraphie de Taglioni pour sa fille et une musique de Schnetzhofer.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Mon Dieu de choléra!
Ne prononce pas son nom ici! Oh, c'est un mythe! Une invention scélérate pour vider les salles de spectacle. Nous jouions en ce moment, nous ne ferions pas 50 fauteuils. Le voilà le véritable fléau, l'épidémie des banquettes vides!
Jean Paredes, dans l'adaptation des Mohicans que je citais tout à l'heure, la Sylphide va connaître en effet moins de succès. Il est vrai qu'elle est enveloppée d'un voile empoisonné par Taglioni, son chorégraphe. Le voile empoisonné, le choléra, fait donc son apparition pour la première fois en Europe, à Paris, en 1832. Alors maintenant, on sait grâce à vous, Patrick Zilberman, et puis aussi secondairement à Koch, Cor. En 1884, d'où vient le choléra. Mais à l'époque, on n'avait pas d'explication ni de traitement indiscutable. Brousset, le maître du Val-de-Grâce, je peux citer le Val-de-Grâce, vous êtes de l'Hôtel-Dieu. Lui, il voyait partout des gastro-entérites, alors le choléra en était une, fallait la traiter comme une inflammation.
Mm-hmm. Oui.
Alors l'inflammation, ça veut dire quoi? On apaise, on retire le sang.
Oui, c'est ça. L'une des grandes pseudo-thérapeutiques de l'époque, et ça sera encore une thérapeutique en vigueur à l'époque de la grippe espagnole en France, c'était la saignée. Bon, mais le traitement, si vous voulez, c'est très difficile de s'arrêter sur ce chapitre longtemps. Parce que traiter une maladie dont on ne connaît ni l'étiologie ni le mode de transmission?
Oui, mais ça provoquait de grands débats. Parce que d'autres pensaient qu'il fallait des stimulants. Alors, le stimulant, ça pouvait par exemple être la friction. Ici, nous sommes dans une adaptation radiophonique du Hussard sur le toit, chef-d'œuvre de Giono, dont on va parler plus d'une fois dans cette émission. Écoutez attentivement le beau héros Angelo, c'est Gérard Philippe et le médecin impuissant, c'est Jean Topard.
L'enfant se mit à trembler et tomba sur le côté. Il claquait des dents.
Foutez du bois dans ce feu et faites chauffer de grosses pierres plates. Allez, faites comme moi, frictionnez-le. Et plus fort. Et plus fort. N'ayez pas peur de l'écorcher, ça pourpoussera. Et donnez-moi des pierres chaudes.
Le corps de l'enfant se couvrait de marbrure violette.
Ah, si vous pouvez continuer à frotter, mais sans le découvrir, en passant vos mains là-dessous.
Oh, c'est tout mouillé.
Oui, dysenterie, allez-y quand même, je flamberai vos mains.
Le visage de l'enfant, devenu cireux et minuscule, était perdu dans les plis de la grosse étoffe du manteau. Ils renouvelèrent les pierres chaudes, changèrent le linge abondamment souillé.
Prenez la poudre de votre pistolet, détrempez-la dans l'eau de vie et faites-moi des cataplasmes dans des mouchoirs. Ou déchirez cette chemise. Je vais essayer de lui mettre des vésicatoires à la nuque et sur le cœur. Il respire bien trop court, j'ai l'impression qu'il va bougrement vite.
Le corps de l'enfant maigrissait et bleuissait à vue d'œil.
Ah, qu'est-ce que vous voulez? On m'envoie chasser le tigre avec des filets et papillons.
Oui, vous êtes sur cette position, mais quand même, vous n'avez pas des points de vue, Patrick Zilberman, sur d'autres modes de stimulation? Parce qu'il y a l'électricité, il y avait le ponche miracle qui permettait de mourir heureux, même si on mourait.
Exactement, oui, absolument. Oui, enfin, il y avait bien entendu des tas de vulnéraires, de remèdes, etc., proposés par des médecins ou pseudo-médecins. Mais si vous voulez, c'est pas là-dessus que portent véritablement les débats à ce moment-là. Le grand débat, c'est contagion ou pas contagion. l'Académie de médecine, c'est un débat à front renversé, si vous voulez. C'est assez amusant vu d'aujourd'hui. Les populations sont férocement contagionnistes. Le choléra, c'est dû à la contamination apportée par une personne. Alors, contamination criminelle ou pas, on ne sait pas très bien. Disons que la méchanceté n'est jamais loin dans cette perspective. Et puis, au contraire, les savants et les académies de médecine, par exemple, celle de Paris, sont au contraire anti-contagionnistes. Elles pensent que le choléra, comme d'autres maladies infectieuses, est dû à la pollution de l'atmosphère par des miasmes, nés du pourrissement des sols, des eaux stagnantes, etc. etc. Et finalement, le débat ne cesse ne cessera qu'à partir du moment où on aura découvert le vibrion et où on aura surtout commencé à comprendre, à partir de la fameuse enquête de John Snow à Londres en 1855, le mode de transmission hydraulique du choléra.
Oui, vous y revenez, mais moi je reste attaché au parcours du choléra de 1832. Donc Paris, ça fait tache d'huile. Là, le choléra va ensuite toucher le sud de la France, mais pas par le nord, par Marseille, comme autrefois la peste. Le choléra vient d'Oran et nous sommes toujours dans le hussard sur le toit que je citais, Giono situe Angelo, son héros, en Provence. Il arrive sans doute l'été 34, l'été 35. C'est une chaleur caniculaire qui règne. L'été est favorable au choléra.
Absolument, enfin, bien sûr. Nous l'avons dit, le vibrion aime les eaux chaudes.
Et il chevauche dans un été. Il n'y avait jamais eu un été semblable dans les collines jusqu'à Manosque.
Il était à peu près une heure de l'après-midi. Il n'y avait d'ombre nulle part. Le long de hauts rochers anfractueux coulait l'odeur des nids pourris abandonnés par les éperviers. Les pentes déversaient dans le vallon l'odeur de tout ce qui était mort loin à la ronde dans les collines blêmes. Nids de fourmis, petites cages thoraciques grosses comme le poing, squelettes de serpents, étendards de mouches abattus comme des poignées de raisins de Corinthe, hérissons morts, lambeaux de sangliers répandus sur de larges aires d'agonie, carcasses de buses effondrées dans les branches de chênes sur lesquelles le soleil frappait.
Il n'y a plus ici ni courrier ni voiture de poste. Les routes sont barrées, les bateaux ne quittent plus les ports. Ma chère mère, cette lettre vous parviendra-t-elle? Le choléra s'est abattu sur ce pays, vous le savez sans doute, et Dieu veuille que l'Italie en soit préservée. J'ai marché comme un brave soldat à travers l'épidémie pour venir jusqu'ici, à Manosque. J'ai vu la maladie frapper au hasard, en aveugle. Elle peut nous tuer tous, amis ou ennemis. Certains parlent ici d'un châtiment du ciel. Mais pour quelle faute?
Regardez, voilà Manosque!
Vous allez où, là?
Nous rentrons chez nous!
Non, non, on ne passe pas! Personne n'entre en ville!
Si je l'homme, nous avons des règles! Nous n'acceptons rien qui vienne du dehors!
Ouais, ouais.
Sauf les œufs à la coque.
Combien de temps doit-on rester là?
Oh, 3-4 jours. Le temps de voir que vous allez bien.
Par les soins de Jacques Sigal et une hybridation de l'adaptation radio du Hussard par René Villemay et de l'adaptation cinéma par Jean-Paul Rapneau. Avant qu'on parle de la quarantaine, les animaux semblent être touchés dans cet été incroyable.
C'est possible. J'avoue que ma science est très courte là, sur les aspects vétérinaires.
Oui, parce que vous êtes professeur d'études en santé publique. Monsieur Zilberman, l'isolement. La quarantaine à Manosque. En plus, c'est un Italien, Angelo, le héros, un carbonaro qui vient de la péninsule. Ça, c'est un grand débat. Quarantaine, isolement. Oui.
Alors, c'est un très grand débat. En réalité, c'est un débat qui, là aussi, est très souvent théorique. Parce que, en 1831-32, les États sont aperçus que les quarantaines, cordons sanitaires gardés militairement par la troupe, etc., d'une part, étaient parfaitement inefficaces, parce qu'une quarantaine, il y a toujours moyen de passer au travers, si on le veut. Ils ont surtout vu que les quarantaines et les cordons provoquaient des émeutes, les passions populaires, des soulèvements, et ça, ils n'aiment pas ça. Autrement, c'est pourquoi, si vous voulez, comme le dit encore Richard Evans, au lendemain de l'épidémie, quarantaine et Cordon sont peu à peu abandonnés. Et on passe plutôt à ce que Evans appelle la politique de l'inaction, c'est-à-dire on ne fait rien. On ne fait rien parce qu'on ne veut surtout pas provoquer, si vous voulez, ces soulèvements populaires qui sont parfois si violents.
Mais on a dit aussi qu'après l'épidémie, malgré l'impuissance qui avait parfois été la leur, mais ils avaient aussi le sens des responsabilités, ils se portaient au-devant des malades. Les gens du corps de santé, depuis le haut, les professeurs de faculté à Paris, jusqu'au bas, les potards, les pharmaciens de village, les officiers de santé de village avaient vu leur rôle rehaussé, ils devenaient davantage des notables.
Alors,
vous n'avez pas l'air d'accord.
Non, alors je suis d'accord avec une partie de ce que vous dites, c'est-à-dire sur le grand sérieux avec lequel les devoirs d'État étaient mis en pratique à cette époque par nos prédécesseurs. Personne ne prenait à la légère ses devoirs en tant que médecin, en tant que tout ce que vous voudrez. Cela dit, le choléra 1831-32 est intéressant parce que ce n'est peut-être pas tout à fait la première fois. Il y a certainement des exemples durant les pestes. Mais c'est là où se généralisent les attaques contre les médecins et contre les hôpitaux. Pourquoi ? Parce que les médecins, d'abord, dérangent les coutumes funéraires des populations qui n'aiment pas ça du tout, en les obligeant, par exemple, comme en Angleterre, à enterrer leurs morts de nuit. Et puis parce que les hôpitaux sont et les médecins donc sont soupçonnés de pratiquer des expérimentations sur les cadavres des pauvres. Il y a un fait divers très connu en Angleterre, deux simili-médecins Burke et Hare, qui volaient des cadavres et les revendaient aux étudiants en médecine. Et donc, si vous voulez, ce fait divers a proliféré. Et les médecins sont l'objet d'une certaine violence. Jules Rochard, par exemple, qui est un médecin qui a exercé dans la seconde partie du 19e siècle, rapporte dans ses souvenirs que parfois ils étaient accueillis dans les quartiers populaires à coups de revolver.
Il y a eu plusieurs attaques du choléra. Vous n'avez pas voulu que je dise au début de l'émission le nombre de morts en 32, mais enfin je vais le dire quand même maintenant, plus de 100 000. Il y en a eu 150 000, je parle de la France évidemment uniquement, pour le choléra de 1854. Le choléra de 1865 a tué, on le sait, le tiers des pèlerins de la Mecque. En même temps, vous expliquez, on est encore dans l'ancien régime des épidémies avec le choléra.
Oui, on est encore dans l'ancien régime des épidémies avec le choléra. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se trouve en face d'une épidémie ou d'une maladie pour laquelle nous ne possédons ni thérapeutique curative, ni thérapeutique préventive, pas de vaccin. Ça veut dire aussi qu'on est dans une crise épidémique qui obéit au double schéma exposé par Thucydide dans son histoire de la guerre du Péloponnèse, la peste d'Athènes, destruction massive, donc pas mal de victimes, désorganisation massive, l'État s'effondrer. Ça veut dire que la gouvernance de l'épidémie est purement locale. Chaque ville, chaque État se débrouille.
Eh bien, est-ce que vous ferez un rapprochement avec ce qui se passe en Afrique, le Nigeria, où l'épidémie d'Ebola est déclarée avoir pris fin, et dans le nouveau régime. Merci à vous, Patrick Zilberman. Vos travaux, on en trouve référence sur notre site. L'émission a été préparée par Ninka Negulesco, par Frédéric Martin, Franck Olivard, à la technique Luc Availlant, la réalisation Jacques Sigal et Mathieu Vidard. Quel est votre programme dans un instant, Mathieu ?
On va parler de l'infertilité aujourd'hui, Jean.
Merci.